notre culture a été persécutée. Et j'ai cherché à comprendre c'est quoi leur culture. Ça c'est un. Et je vois aujourd'hui qu'il y a un intérêt croissant pour ces cultures, on pourrait dire primordiales. Vous allez par exemple dans des grandes librairies, vous avez des grands rayons sur le chamanisme, vraiment des grands, grands rayons. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Comment ?
Oui, le chaman.
Ah, c'est très développé. Et bon, ça va aussi avec la destruction des biodiversités, etc. Et aussi. C'est des cultures en péril et qui interpellent. Et il y a des personnalités aussi charismatiques. Par exemple, au Brésil, vous avez sûrement un peu entendu parler, il y a un chaman de la forêt amazonienne qui a beaucoup développé. Il y a un livre qui vient de paraître David Copena, je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être qu'il y en a qui parlent la langue là-bas.
Non.
Voilà. Donc, parole d'un chaman, Yanomami. Bon, mais ça, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, il est devenu député là-bas, au Brésil. C'est quelqu'un qui est devenu une très, très, très grande personnalité au Brésil. Et donc, il y a quelque chose qui est comme ça, qu'on est tous avec notre BlackBerry ou notre iPod. Je suis désolé, hein, je n'ai pas d'iPod, j'ai seulement un BlackBerry. On est avec nos machines comme ça, on se dit peut-être que finalement, on est passé à côté de quelque chose. Et il y a des cultures qui restent, qui n'ont pas ça du tout, mais pas ça du tout, et qui ont des sagesses, et voilà. Alors, à part ça, alors plusieurs, je pense, d'entre vous, j'ai déjà parlé de ça, parce que c'est au fil des années, disons, en tant que rave, des questions à la RIC se sont présentées à moi. Je vais vous dire, et je vous demande comment vous trancheriez la question suivante. Il y a un peu plus qu'une dizaine d'années, un monsieur très 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 sérieux, quelqu'un qui a fait Polytechnique, enfin, ou l'équivalent, je ne sais pas, Centrale Polytechnique, enfin un ingénieur de haut niveau, directeur d'une grande boîte d'ingénierie, ami de mes parents, que je connais depuis mon enfance, quelqu'un de très très sérieux, qui a eu des grandes responsabilités dans la communauté juive, m'appelle, me sollicite un rendez-vous. Je connais très très bien, très très bien. Il dit voilà, moi et ma femme, nous avons été envoûtés. On nous a jeté un sort et depuis, il nous arrive telle chose et telle chose. Notre maison, il y a des craquements, il y a des traces brunâtres qu'on n'arrive pas à enlever. Et nous arrivait telle chose, et depuis j'ai fait faillite, depuis cet envoûtement, etc. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous répondriez?
Vérifier les mezouzot.
Alors, par l'étude que nous allons faire, ça m'a aidé un peu. Ça m'a aidé. Et récemment, j'étais confronté encore à une histoire beaucoup plus spectaculaire, mais je n'ai pas envie de raconter. C'est top.
Oh, bah non, alors, ça, c'est pas juste. Trop tard.
Non, mais ça prendrait la soirée. Et je connais. Mais ça, à voir. Alors, on va commencer les versets. Comment aborder ces choses-là? Comment aborder ces choses? Alors, pour ce monsieur-là, appelons-le monsieur très sérieux, très, très rationaliste. Donc, comme il ne s'en sortait pas, lui et sa femme, de tous ces envoûtements, d'abord, ils sont allés voir un marabout qu'on lui a conseillé, ici, sur la place de Paris. Le marabout les a beaucoup aidés. Le marabout les a beaucoup aidés, jusqu'au jour où le marabout a disparu, sûrement parce qu'il était sans papier, il était expulsé. Et ensuite, on lui a conseillé un exorciste en Suisse. Il est allé. Alors, c'est là que ça a coincé. C'était un exorciste d'une base chrétienne, et il lui a dit qu'il faut prendre de l'eau bénite. Il a dit, je suis juif. Et c'est là après que... Bon, moi, personnellement, j'ai pris au sérieux ce qu'il m'a dit, et je l'ai dirigé chez un rave en Israël de la famille Abouhatsira. Rabbi Meir Abouhatsira à Ashdod, qui l'a aidé, etc. Bien. Alors, on va commencer les versets. Donc, chapitre 18, verset 9, chapitre 13, verset 7. Alors, si vous voulez, je vais dire les choses comme ça. On sait que dans la Torah... On sait que dans la Torah, un des interdits fondamentaux, qui n'est pas interdit que pour les enfants d'Israël, c'est l'interdit d'idolâtrie. Donc c'est ce qu'on appelle Avodah Zara. Avodah Zara, l'interdit d'idolâtrie. Interdit. Mais il y a un autre pan qui s'appelle Kshafim. Kshafim, la sorcellerie. Voilà. Qui est autre chose. Qui est autre chose. Quelle est la différence entre l'idolâtrie et la sorcellerie? C'est deux pans très très différents. Tellement deux pans tellement différents. Que le peuple d'Israël a reçu au Sinaï 613 mitzvot. Mais avant le don de la Torah, toute l'humanité est enjoint par sept commandements. Ce sont les sept lois noahides. Sept lois de Noé. Alors, dans les sept lois, il y a l'interdit d'idolâtrie, et ça c'est, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est sûr. Mais l'interdit de sorcellerie, c'est un débat dans le Talmud. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'est un débat. Donc on voit de là que ce n'est pas la même chose. Indubitablement, ça c'est interdit pour tout le monde, juif ou non-juif. Ça c'est un débat. On va voir. Donc, le livre de Devarim, Deutéronome, c'est le discours que Moshe Rabbeinu a fait avant que les enfants d'Israël ne rentrent dans la terre de Canaan. Donc, il sait aussi que lui ne rentrera pas dans la terre de Canaan, donc il est remontrant, il leur dit « Attention, allez rentrer dans la terre de Canaan, voilà ». Voilà, qui est, voilà, vous devez bien respecter les commandements, patati patata. Qui a taba et la aretz, Hachem, Hachem, Hachem et l'okecha notenna, l'outimad la asot, que tu avot a goïma em. Car tu viens dans la terre que Dieu, que l'Éternel, ton Dieu, te donne, l'outimad la asot, que tu avot a goïma em. N'apprends pas pour faire comme les abominations de ces peuples. Donc les peuples cananéens ont des mœurs abominables. Alors tu vas rentrer dans la terre de Canaan et les cananéens ont des mœurs horribles. Toeva, toev, ça veut dire qui écœure. Ils ont des mœurs écœurants. Alors, tu vas rentrer, là les enfants d'Israël étaient 40 ans dans le désert, ils vont rentrer dans la terre de Canaan, ils vont être confrontés à une culture atroce. Alors, le verset dit, n'apprends pas pour faire comme ces horreurs. Regardons le commentaire de Rashi. L'autre, il va la saute. Le verset dit n'apprends pas pour faire. N'apprends pas pour faire comme ces horreurs. Alors, le Talmud cité par Rashi dit pourquoi le verset nous dit-il n'apprends pas pour faire comme ces horreurs? N'apprends pas tout court. Qu'est-ce que ça n'apprend pas pour faire comme ces horreurs? Donc de là, pour faire, c'est interdit. Mais pour comprendre et trancher la loi, ça oui, c'est permis.
Je peux comprendre.
Oui, je reprends, pas de problème. Tu vas rentrer dans la terre des Cananéens. Donc tu arrives, il y a toute une culture, des gens qui vivent, qui ont des mœurs. Alors, n'apprends pas ces horreurs. Après le verset dit-il, n'apprends pas pour faire ces horreurs. Ça veut dire, tu dois, oui, apprendre, pas pour appliquer. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est. Pas pour faire. C'est le sujet, on va voir de quoi il s'agit, on reprendra ça. Et quelles sont ces abominations? Verset Yud. Loui matse becha Mavir beno ubito ba'esh, kosem kesamim, me'onel, ou menachesh, ou mechashef. Qu'on ne trouve pas dans ton sein quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans le feu. Kosem kesamim, deuxième catégorie, qu'on ne trouve pas dans ton sein, kosem kesamim, c'est des sorciers. C'est des plutôt. On va voir Rashi. On va voir Rashi sur tous les détails. Les oracles. Kosem voilà. Kosamim, c'est des oracles. On ne trouve pas dans ton sein des oracles. Kosem Kosamim, des oracles. Meonen. Alors, Meonen, on va voir aussi dans Rashi qu'est-ce que c'est. Et on va voir le Talmud sur ce point-là. Et Maïmonide. Menachesh, c'est quelqu'un qui fait des signes, qui analyse les signes. Voilà, tu as croisé un chat noir, alors fais pas d'affaires aujourd'hui, c'est mauvais. Ouais, quoi? C'est mauvais, là, c'est un chat noir, c'est pas bon aujourd'hui. Voilà. Mechashef, c'est des sorciers. Alors, On va analyser. Qu'est-ce que c'est qu'on ne trouve pas dans ton sein quelqu'un qui fait passer son fils ou sa fille dans le feu? Regardons le commentaire de Rashi. Avir beno bito baesh ou avodat amoler, c'est le service du Moloch. Ose madorot esh mikan ou mikan ou maviro benchtem. Il fait un brasier à droite et à gauche et fait passer les enfants entre les brasiers. En vérité, ici, c'est pas qu'il donne dans le feu ses enfants. Hein. Ça, en vérité, on pourrait dire, c'est... Alors, en regardant Rashi, en regardant les commentaires, c'est le vaudou. Vous avez déjà vu des trucs de vaudou? Oui.
La télé, quoi.
Ah bon? Alors, le vaudou, c'est, par exemple, vous avez des braises. Des braises. Et il y a des gens, ils marchent sur les braises. Mais pourquoi ils marchent sur les braises? Pourquoi? C'est quoi le but? Pourquoi ils font des bêtises pareilles?
Défier la douleur, défier des forces
maléfiques,
des forces non incontournables qu'ils arrivent à contrôler, c'est ça?
Alors,
pour montrer qu'ils sont surhumains, peut-être.
Pour contrôler leur esprit.
Alors, le but de ça, le but de ça, et ça, c'est une partie de la culture des Indiens. Des plaines là-bas, en Amérique du Nord. C'est quoi? Vous savez, qu'est-ce que c'est? Il y avait, donc, jusque à la fin du 19e siècle, la danse du soleil. Vous savez, la danse du soleil des Indiens d'Amérique du Nord? Jean-Marc?
La danse de la pluie.
Pareil à la télé, dans le Johnny de bonne forme.
Dans
John Ford.
Ouais. Alors, non, pas dans John Ford.
Non, il n'y a pas dans John Ford.
Ellie, on a déjà étudié ça ensemble.
Non, non, c'est la première fois que je joue à celui-là.
C'est vrai?
Oui, c'est.
Ah bon, parce que ça fait, disons, un peu plus que 10 ans que je travaille ce sujet. Hein, mais y a un film que, quand j'étais gosse, qui était sorti, parce que à la fin des années 60, après la guerre du Vietnam, il y a eu une grande mauvaise conscience en Amérique. Et ils ont commencé à se rendre compte que c'était pas que des glorieux pionniers. Et il y a eu plusieurs films phares qui sont revenus. Bon, d'abord, Little Big Man, c'est le premier film qui voyait de manière positive les natives américaines.
Les Cheyennes de John Ford.
Oui. Bon. Alors, c'est enregistré, hein, attention. Hein. C'est enregistré, le bon bon bon.
Ouais.
Et il y a un film, ça s'appelait Un homme nommé Cheval. Je ne sais plus l'auteur. Et là, dans Un homme nommé Cheval, et c'était un truc très, très ethnologique, il y a eu la danse du soleil. C'est quoi la danse du soleil? C'est, donc, je ne sais pas à quel moment c'était dans l'année, dans un grand tipi, il buvait un truc un peu hallucinogène, ceux qui vont être initiés. Il y en a, ils vont être initiés. Et ils étaient attachés avec des griffes d'aigle sur la poitrine, là. Et ça s'est passé, ça a été interdit par une loi américaine, je ne sais pas en quelle année, avec des griffes d'aigle, là. Ils sont tirés en haut et ils tournent autour d'un feu. Et le but, c'est quoi? Le but, c'est... en vérité, d'enlever notre enveloppe charnelle. C'est-à-dire la douleur et les substances hallucinogènes explose l'enveloppe charnelle. C'est la douleur intolérable. Et soit on meurt, et si on ne meurt pas, au cas où, ouais. Mais c'est pas fait pour mourir, hein. Mais c'est pour... C'est pas tout le monde, c'est des initiés. Ceux qui ont fait ça, c'est comme pour d'autres aller à la Mecque, hein, si on peut s'exprimer ainsi, excusez-moi. C'est initiatique, c'est un truc que pas tous font ça. Et ils explosent leur enveloppe charnelle et ils ont des visions. Ils ont des visions. Ils voient ce que les yeux de chair ne voient pas. Ils voient autre chose. Ils voient l'invisible. Ils voient d'autres dimensions. Ils voient d'autres dimensions. Et ça, c'est la base du chamanisme. Les chamans, c'est... je sais pas, vous avez un peu lu sur les chamans ?
Des grands prêtres.
Oui, vous ne savez pas ça ? Comment ?
Vous ne savez pas ça ?
Mais les chamans, par exemple, vous avez dans n'importe quelle librairie, vous avez plein de livres là sur les chamans en Sibérie, par exemple. C'est la même chose. Les chamans en Sibérie, alors c'est des personnes souvent de certaines familles, en Afrique aussi, presque toute l'Afrique et l'Afrique noire, subsaharienne, comme on dit, est très très investie dedans. C'est le par exemple, en Sibérie, vous avez des gens qui vont dans la forêt sans rien, qui se nourrissent de certaines racines, mais et qui dorment dans les feuilles. Mais c'est quoi le but de ça? Le but de ça, c'est avilir le corps, et percevoir ce que le commun de nous, on ne peut pas percevoir.
Mais ils le racontent après ?
Comment ?
Une fois qu'ils l'ont perçu.
Ah bah oui, c'est les sorciers, c'est ça. Les, après, ils deviennent des initiés, et on veut savoir, voilà, on va faire... on va voir la suite. Ils communiquent avec les esprits des morts. Mais c'est très... Sur la planète, encore aujourd'hui, c'est très, très développé. Hein. Ils communiquent avec les esprits des morts. Ils communiquent avec les esprits des animaux. Alors c'était ça là-bas, en Amérique du Nord, dans certaines régions, avant de faire la chasse aux bisons, c'était leur vie tenait là-dessus. Donc certains allaient communiquer avec l'esprit des bisons. Bon, pour nous, c'est des bêtises. La question est de savoir, est-ce que c'est des bêtises, c'est pas des bêtises? Comment la Torah aborde ça, machin? Voilà. Alors ça, c'est écrit, Loi Matzebecha, ça, les Cananéens, ils faisaient, c'est horrible. On va voir, c'est horrible, parce que c'est avilissant.
Et la douleur, ils se faisaient brûler au-dessus avec les griffes, là, ou quoi?
Comment?
Ils se font brûler?
Non, ils sont... Ils sont suspendus par leur corps au-dessus du feu. Donc il y a la peur, il y a la chaleur. Ils ne brûlent pas.
Ah, ils ne brûlent pas, ouais, d'accord.
Ils ne brûlent pas. Et de temps en temps, il y en a un qui tombe. Bah, ils le ramassent avant. Okay. Mais il tombe, ça veut dire qu'il y a une partie qui est partie au revoir. Mais c'est comment dire, le ça, c'est la base. Ça, c'est la base du chamanisme. Ça, c'est la base du chamanisme.
C'est un aigle ou des pattes d'aigle?
C'est un des pattes d'aigle. Alors, vous voyez, par exemple, vous avez vu les films de cow-boys avec les Indiens. Les Indiens, il y en a, ils ont une tête de bison, d'autres, ils ont des plumes, des machins. Bon, les plumes, c'est connu.
Il y en a, ils sont scalpés.
Ouais, il y en a... alors, mais le Pourquoi il y en a, par exemple, il s'appelle bison futé, l'autre il s'appelle, je ne sais pas, œil de lynx, l'autre il s'appelle comme ça? Parce qu'ils ont une identification avec l'esprit de ces animaux. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Hein. Alors,
chaque élément de l'univers, enfin de la Terre, ont des esprits et donc ils communiquent avec eux.
C'est ça.
Et souvent, ils utilisent, enfin, ils consomment plus des plantes hallucinogènes comme le peyote, et des choses comme ça, parce que
voilà, c'est beaucoup lié à l'absorption de alors soit des champignons machin, soit d'autres plantes, etc. Par exemple, là, le chaman Ayaoui Machou, là, bon, il écrit dedans, ça fait partie de tout un protocole de prendre certaines herbes et ça les fait mettre en contact avec certaines choses. Mais ça, on va voir, c'est des choses très, très importantes, on va essayer de voir.
Il s'appelle comment? Aya quelque chose, c'est
bon. Comment?
Il s'appelle...
Le monsieur, là? Il s'appelle Kopenawa. Je ne sais pas si le W se prononce, comment il se prononce.
Je crois que...
Et un chaman Yanomami. Mais ouais. Il est hyper célèbre, hein, le monsieur. Il a énormément œuvré pour la... pour le droit de ces Indiens. C'est un livre qui vient de sortir il y a quelques semaines.
Je crois qu'ils consomment une boisson qui s'appelle l'ayahuasca. Je ne sais pas s'ils en parlent là-dedans. Parce que nous, on connaît quelqu'un qui a vécu une expérience un peu chamanique, comme ça. Rien à voir avec les crochets, les machins. Mais il y avait un type qui s'appelait Pelletier ou Le Pelletier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui, en fait, depuis la fin des années 60, il y a vraiment...
Oh, il y avait Carlos Castaneda.
Oui, aussi.
Voilà, c'est notre culture. Mais tout ça, c'est des choses, si vous voulez... on va essayer de voir. C'est quelque chose de très, très important et radicalement interdit. Radicalement interdit. On va essayer de comprendre, justement. Le verset dit... Alors, maintenant, on peut apprendre. Le verset dit « L'otilma la saute, n'apprends pas pour faire. Mm-hmm. » Ça va dire, quelqu'un dit « Moi, je fais pas. Mm-hmm. » Ouais, mais il y a des copains, ils m'ont invité à un stage. Ouais, J'apprends, je verrai après si ça me convainc ou non, mais j'apprends. Alors, ça, c'est interdit, parce qu'il y a un but éventuellement de faire. Rien qu'apprendre. Mais apprendre pour comprendre de quoi il s'agit... Ça, c'est permis, et même le Talmud dit qu'un maître du Sanhédrin doit être expert dans ces sujets. Ouais. Pourquoi? Pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. D'abord, pour comprendre pourquoi la Torah interdit ça.
Alors, il faut que j'étudie la sorcellerie pour être au Sanhédrin.
C'est ce que nous allons faire ce soir.
Comme ça, on pourra tous être au Sanhédrin.
Un petit peu l'apprendre.
Mais
on vous a prévenu.
Non, je pensais pas maintenant, je pensais le grand prêtre, alors c'était quelqu'un qui étudiait la sorcellerie.
Je ne parle pas de grand prêtre, je parle des graves, des juges. Des juges
du Sanhédrin.
Ils doivent être experts.
Oui, parce que ça ne va pas se passer en une heure, c'est du travail.
Experts. Pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Et aussi, lisons le Rashi maintenant, parce que le Rashi est très 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 bien. L'otimal la saute sur le verset tête. L'otimal la saute n'apprend pas pour faire. Donc pour faire, tu n'apprends pas. Même, tu ne l'as encore pas fait, mais tu as appris, tu as suivi un stage pour faire. Rien que suivre un stage, c'est interdit. Aval, ata la même, la vine velorot. Mais tu apprends pour comprendre et enseigner. Klomar, c'est-à-dire, la vine ma'asem kama'em kul kalim, pour comprendre combien ces actions sont dégradées et pourquoi la Torah nous interdit. C'est très très important parce que, regardez, et c'est un aspect de notre étude ce soir, parce que tout ça, ça paraît un peu sympa, si vous voulez. C'est sympa, c'est bio, c'est le retour à la nature, on sent que la civilisation n'est pas passée par là, donc automatiquement c'est bien, C'est pas. Donc, il y a une sagesse. Et d'ailleurs, il y a des sagesses primordiales. On disait dans ces livres-là, oui, j'ai rencontré le chaman machin. C'est des gens pleins de sagesse. C'est possible d'ailleurs. C'est d'ailleurs possible, hein, des gens pleins de sagesse. Et donc, il faut approfondir pour voir pourquoi la Torah interdit. Pourquoi la Torah interdit ? Mais on va voir la voyance. La voyance.
C'est interdit pourquoi aussi.
Là-bas. Comment ?
C'est interdit aussi.
C'est le sujet. C'est un nouveau sujet. Et on va voir, et dans la suite, et on va voir, est-ce que c'est permis la prestidigitation ou non.
Prestidigitation.
J'en ai mis trop.
Non, prestidigitation.
Presse.
Comme les doigts, digitation.
Les
doigts. Digitation.
Oh, non, là. Presti.
Digitation.
On va voir le statut de la prestidigitation. Alors, donc je reprends. L'oïmatse bera mavir beno betobiesh, que ne trouve pas en ton sein quelqu'un qui fait passer son garçon, sa fille, dans le feu. Donc là, c'est pas pour tuer ses enfants, mais c'est pour les faire devenir devins, pour les initier. Kosem que Samim, Rashi. Kosem que Samim. Ezeu Kosem. Qu'est-ce que c'est le Kosem? Alors, Rashi rapporte le Talmud dans le traité Sanhedrin. Ezeu Kosem. Qu'est-ce que c'est le Kosem? Orez et de Maclo, Véomer, celui, il prend son bâton et il demande s'il va aller ou pas aller. Somme toute, c'est le pendule. Le pendule. Par exemple, est-ce qu'il doit acheter des actions de tel truc? Alors, il demande à quelqu'un qui a un pendule. Oui. Mais ne mettez pas tout votre argent là-dedans. Diversifiez. Ok. Donc ça, on ne doit pas trouver... Alors là, on ne doit pas trouver... de quelqu'un juif qui fait ça. Kosem Kosem, c'est celui qui fait ça. On ne doit pas trouver celui qui... parce que le bâton, il y a des gens qui ont des dons, qui savent faire parler les bâtons. Mais aujourd'hui, il y a ça, à Paris. Vous l'avez déjà rencontré?
Le bâton, il fait pas en quel an, bâton?
Non, mais il parle, ça veut dire... ils sentent des vibrations.
Ah. Le sourcier.
Comment?
Comme le sourcier.
Comme le sourcier. C'est les gens qui ont des dons de...
des magnétiseurs.
De magnétiseurs. C'est ça ce dont ça parle. Ils posent des questions. Et selon les vibrations, ils peuvent répondre.
Attendez.
Ne faites plus ça.
On n'a pas le droit de faire, mais vous disiez que... On n'a pas le droit de trouver quelqu'un qui fait ça, qui soit juif.
Alors, au niveau précis, on ne doit pas trouver dans notre sein quelqu'un qui fait ça. Est-ce qu'on a le droit de demander à quelqu'un, à un non-juif qui fait ça? C'est une question importante. On verra peut-être dans la suite. Mais l'interdit strict, c'est l'interdit qu'un juif fasse. De le faire, l'interdit strict, c'est de faire.
Il n'y a pas un cas où... cet été, j'avais étudié un cas où, effectivement, on peut interroger un pendule quand on a une décision. Dans l'Agmara, c'est à propos d'une bad call qui sort et qu'on peut se fier à une bad call. Et je crois qu'il y a un commentaire qui dit, je ne sais plus quel est le passage du Talmud où c'est écrit, et le commentaire dit effectivement, à la limite, un pendule, on peut lui poser la question et en fonction
trouve
de
comment... Moi,
je
trouve, ça sera
mieux. Oui, non, mais ça va revenir. Hein, ça va,
ça sera mieux. Si voilà, donc là, c'est, comme vous dites, le sourcier comme le sourcier. Bon, le sourcier, bon, ça, c'est... je pense que ça, c'est tout à fait permis. Mais c'est de ce type-là. C'est de ce type-là. Quelqu'un qui sent des vibrations, pose des questions, et il sent sur les vibrations un pendu ou quelque chose comme ça. Ça, c'est interdit. Alors, ça, c'est le deuxième cas. Voilà, Kosem Kosamim. Meonen. Alors, le Meonen, il y a de grosses discussions dans le Talmud. Meonen. Meonen. Alors, Rashi rapporte plusieurs explications. Meonen, Rabbi Akiva Omer, Elou Notne Onot. Ce sont ceux qui donne des périodes. Ona, ona, le mot ona veut dire période. Et l'on en est en autre. C'est ceux qui donnent des périodes. Shomrim, ona pelonit, yafa leatril. Ils disent, voilà, telle période, c'est bon pour ça. Telle période, c'est pas bon pour ça. C'est, si vous voulez, dans une certaine mesure, c'est les astrologues. On va voir, Maïmonide explique dans une première explication, c'est les astrologues. Ils disent... ascendant Vénus, descendant descendant Sagittaire, ouais. Donc là, vous avez un Shidour en ce moment. Commencez pas un Shidour. Pas la bonne période pour les Shidourim. Voilà, attendez 2 semaines. Ça, c'est interdit. C'est interdit. Deuxième explication, Chachamim omrim, Elou ochazé enaim. Chachamim disent, ce sont ceux qui font croire des choses par des illusions. Alors ça c'est pas clair de quoi il s'agit. Elou ochazé enaim. Première explication, c'est clair, c'est les astrologues. Oui, première explication, c'est Rabbi Akiva. Deuxième explication, Ochazé et Naïm, parce que dans Meonen, il y a Aïm, l'œil. Ochazé et Naïm, donc, c'est ceux qui font croire des choses aux yeux, qui saisissent les yeux. Alors, il y a un débat, est-ce que c'est par des envoûtements, est-ce que, si vous voulez... C'est pas magie noire ou magie blanche.
C'est quoi ça ? C'est les hypnotiseurs,
non ?
Et les spectacles qu'on voit à la télé.
Comment ? Oui. Alors, est-ce que, vous savez, il y a magie noire et magie blanche. C'est quoi la différence entre la magie noire et la magie blanche ?
Il y en a une qui fait du bien et l'autre du mal.
Comment ? Moi j'aime bien les trucs, ça veut dire, excusez-moi, qui sortent des sentiers battus. Je suis à l'aise dans ces trucs-là. Je suis à l'aise dans ces trucs. Je sais pas. Si vous voulez, je peux vous faire des cours sur derrière le Shabbat si vous voulez. Mais bon, ce soir, c'est là-dessus. c'est quoi la différence entre magie noire et magie blanche ? C'est clair, non ?
C'est clair,
non ?
C'est que ma porte malheur.
Comment ?
Magie noire, c'est qui porte malheur à quelqu'un, qui fait du mal à quelqu'un.
Alors, si je ne m'abuse, hein, si je ne m'abuse, non, mais, la magie noire, c'est... comme Gargamel dans les Schtroumpfs. C'est
comme le vaudou à distance.
Voilà, par exemple, qui manipule des forces occultes.
du mal.
Ouais, non, mais qui manipule des forces. Il y a des forces, des forces, et il manipule ces forces, déchaîne ces forces pour arriver à des fins précises. Voilà.
Dark Vador.
Comment ?
C'est Dark Vador.
Voilà.
Dark Vador, c'est Star Wars.
Les forces du mal.
Ouais, ouais, il manipule des forces. Voilà, ça c'est les sorcières, comme dans Blanche-Neige. Revoyons Blanche-Neige. Mm-hmm. Oui, c'est Blanche-Neige, c'est la sorcière. Vous voyez, avec la pomme. Mère. Mais pas forcément. Mais ça veut dire c'était le fond de ça qui manipule des forces occultes. Voilà. Mais il y a la magie blanche, si je ne m'abuse. Ouais. C'est simplement, c'est la prestidigitation. C'est-à-dire, c'est l'illusionniste. C'est l'illusionniste. Illusionniste, ça veut dire en vérité, il n'y a rien d'occulte. C'est complètement rationnel, mais il ne montre pas son coup. Il ne montre pas son coup. Alors, il y a des jeux de cartes, il y en a qui font des tours avec des cartes, voilà, machin, on coupe le jeu en deux, machin, t'as mis une carte, tu la mets au-dessus, tu la mets en dessous, machin, et tu la ressors, bon. Il y a des techniques, en réalité, c'est que des techniques. Maintenant, il y a des techniques extrêmement développées, il y a des techniques basiques, ouais, qu'on apprend dans les mouvements de jeunesse, mais il y a des trucs, des fois, très 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 élaborés, qui se passent, entre des gens qui s'y connaissent, et il y en a qui inventent aussi des trucs. Vous avez entendu parler de Houdini?
Oui.
C'était au début du XXe siècle. Houdini, c'était un juif d'Europe de l'Est. Je ne sais pas exactement comment il s'appelle, Stein, je ne sais pas exactement. Et il a pris le nom de Houdini en l'honneur de Robert Houdin, qui a été un des inventeurs de l'illusion, etc. Alors, alors ça, on va voir comment aborder la prestidigitation, parce que Rashi est ambigu. Orez et Naïm, c'est celui, Orez et Naïm, ceux qui font croire des choses. Ils font croire des choses par des sortilèges, par des envoûtements, oui, ou bien simplement par de la prestidigitation. On va voir ça. A priori, la prestidigitation n'a rien à voir avec ça. Comment ? Il y a des spectacles. Et même, ce qui est intéressant dans la communauté, il y a des fois, dans des bar mitzvahs, dans des mariages, il y en a qui mettent de l'ambiance avec des trucs comme ça. Bon, on va voir Maïmonide interdit.
Excusez-moi, je me trompe peut-être, mais Oné, c'est pas la même racine que la nôtre, répondre, donner des réponses.
C'est vrai, oui. C'est une bonne idée, mais il ne relève pas ça.
D'accord.
Enfin, c'est bien, on aurait pu. On aurait pu. Bien. Alors, ça me honnête, donc il y a deux explications. Menachesh, alors Rashi, Menachesh. Pito n'a flamme et pive. Son pain est tombé de sa bouche. Ah, mauvais signe. Son pain est tombé de sa bouche. Tsvi ifsiko baderer. Un cerf est passé devant lui sur la route. Ah, c'est un signe de ceci. Donc là, comment on pourrait dire en français?
Superstition, c'est beaucoup.
Oui, ça c'est la superstition. Ça c'est vraiment la superstition. C'est des signes, voilà, il y a des signes. Voilà. Mais vous savez que c'est les oracles aussi. Par exemple, je sais pas, quand on était à l'école, on apprenait sur les Romains, ils avaient comme ça, il y a des mots techniques qu'ils regardaient, par exemple les entrailles des animaux, avant de commencer la bataille. Est-ce qu'on commence la bataille demain matin ou après-demain matin? Alors ils prenaient un cheval, ils ouvrent le cheval, il regarde les entrailles du cheval. Alors selon si c'est comme ci, si c'est comme ça, Oh, le bar de café.
Tous les matins.
Ouais, le bar de café.
C'est la voyance. Voilà.
Comment
c'est, la voyance,
c'est ouais. Un peu la voyance, moi. Un peu de la voyance. Voilà. Alors ça, ça, c'est quelqu'un qui dit ça, qui analyse ça, ça c'est interdit par la Torah. Quelqu'un qui fait ça, c'est interdit par la Torah. C'est un interdit. Non, mais c'est quand même intéressant qu'il y a des interdits de la Torah connus. Par exemple, c'est relativement connu qu'on n'a pas le droit de manger de porc. C'est relativement connu. Bon.
C'est pas magique.
Comment ?
C'est pas magique.
Non, non, mais c'est, non, en général, je parle, il y a des interdits de la Torah qui sont connus. Il y a des interdits à Torah, on a, je ne sais pas moi, pas loin fumer charat, c'est connu, d'accord. Non, pas, c'est plus, c'est affinité. Mais des choses connues. Yom Kippour, on n'a pas le droit de manger, de prendre la bagnole, que sais-je. C'est connu ça. Mais ça, ça, c'est des interdits à Torah.
C'est dans les 613, ça.
C'est, ah bah oui, on y est.
Ah, c'est dans les 613.
C'est, la Torah parle aux Juifs. La Torah parle aux Juifs. La Torah parle aux Juifs. Mais c'est pas connu, c'est étonnant quand même. Parce que moi, je peux vous dire... Oui.
Les gens qui font des codes sur l'actualité, etc., pour prévoir l'actualité...
Oui, on, oui, ça peut être. Ça peut être. Par exemple, j'ai fait un... quelqu'un, il y a... cet été, au mois d'août, j'étais... Il y a un de nos anciens élèves qui habite maintenant... il habite Natania, mais là, au mois d'août, il habitait Tel Aviv. Tel Aviv, il s'est marié à Tel Aviv. David Chemla. Tu as connu David Chemla? Bon. Et alors, il y avait des Sheva Brachot... c'est un ami à lui à Tel Aviv au mois d'août. Et puis, comme c'était un milieu un peu interlope, je savais pas tellement comment. Tel Avivien, vous voyez. Je savais pas tellement comment parler de Torah. Alors j'ai parlé de ce sujet. J'ai parlé de ce sujet.
C'est pas un compliment pour nous, ça.
Et il se trouvait. Ce que je ne savais pas, que celui qui invitait, qui organisait Sheva Brachot, son métier, c'était le pendule. Non, mais ça c'est vrai, hein, franchement.
Donc c'était
et c'était quelqu'un de la communauté, quoi. À Tel Aviv, quoi. C'est son métier. Alors après, on a passé la nuit à parler de ça. Il était content parce qu'il voyait que. Et c'est intéressant. Et c'est le sujet, on a beaucoup discuté, beaucoup, on a passé toute la nuit à discuter de ça, après. Et il m'a dit que son don est venu après avoir pris pendant une période de sa vie du LSD.
Oh. Ah ouais.
Le LSD a déphasé quelque chose dans sa personne, et qui a fait qu'il est sensible à des choses que la plupart des gens ne sont pas sensibles. Alors il fallait lui trouver un autre métier. Non, mais alors bon, ça c'est ce dont on parle.
Pardon, il y a beaucoup de choses qu'on connaît, je parle plutôt pour les séfaradimes, de nos grands-mères, des croyances qu'on a un peu, les phrases pour retrouver les choses perdues, les ouais, ciseaux, on balaye pas les pieds d'une fille, des trucs comme ça. Est-ce que ça rentre...
Ça peut.
Faire le nœud quand ouais, quelqu'un vient trop. Pas... Ça peut.
En vérité, il faut savoir tout ce que vous trouvez chez les juifs tunisiens, vous le trouvez chez les juifs polonais. Sachez.
Ah ouais.
Que ça soit clair. C'est pas nous les séfarades. Non, sachez, c'est pas la chasse gardée des séfarades.
Okay.
Mais ça, on va essayer peut-être. Je sais pas si on n'est pas terminé ce soir le sujet, mais on va comprendre pourquoi dans les sociétés un peu archaïque, c'était très très prégnant. On va voir ça dans la suite. Continuons. Maintenant, le Yud Aleph est pas mal non plus. Le verset 11, il est pas mal. Il est pas mal le verset 11.
Yud Aleph, merci. Ah ouais, voilà.
Verset Yud Aleph. Donc, le Donc la Torah nous dit qu'on ne trouve pas en ton sein, donc de ma virbeno bito baesh, etc., kosem kosem, hein, on ne doit pas trouver chover chaver. Alors chover chaver, qui c'est qui me traduit ça? Comment?
Qui se fait des amis? Je sais pas. Non, mais peut-être se faire des amis, des espèces de fluides comme le filtre d'amour, des trucs comme ça, qui font qu'en fait on va
influencer. Oui, Chaver, le Talmud explique, et Rashi rapporte, on va lire ça dans Rashi, c'est celui qui communique avec les animaux. Chaver, 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 c'est qui rassemble à lui les animaux. Regardons Rashi. Chez Metzaref Nachashi ou Akravi, Moshar Chayot et Makom Echad. Il rassemble des serpents ou des scorpions ou d'autres animaux à un endroit. Si vous voulez, grosso modo, c'est le joueur de flûte de Hamelin.
Ah ouais.
Non.
Lui, on dit ça du rassemblement.
Il comprenait les animaux. Mais là. Là, Chover Chaver, il rassemble les animaux. Il communique avec l'esprit des animaux et les domine. Les domine par le fait qu'il communique avec l'esprit des animaux. Il s'identifie avec l'esprit, l'esprit, c'est-à-dire l'esprit dominateur des animaux et comment dire. C'est un point important, c'est un point important. Nous, on est dans une société, une culture importante qui est dominatrice sur la planète, plus ou moins. Mais il y a d'autres cultures, qui, quand elles sont confrontées à la culture occidentale, sont effarées par le côté grossier de la société occidentale. J'ai lu dans des livres que pour des gens d'Afrique noire, certaines personnes qui viennent ici, certaines, elles sont choquées par le fait que tout ce qui est invisible n'existe pas ici en Occident. Quand ils vivent complètement dans l'invisible. Les esprits des morts, les esprits des animaux, par exemple, jamais ils ne toucheraient telle sorte d'arbre, ou bien avant de cueillir cet arbre, ils font tout un rituel, ou tout un rituel, parce que cet arbre a un esprit, et qu'il faut communiquer avec cet esprit avant de pouvoir profiter de cet arbre, ou des choses comme ça. Et de la même manière, avant de partir à la chasse, bon, pas à la chasse style le mec... Jean-Marie Le Pen qui prend son fusil à chevrotine pour tuer les sangliers dans la forêt. C'est boum, 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 boum. Non, tu vas à la chasse, avant de partir à la chasse, tu vas dominer l'esprit de l'animal que tu vas tuer. C'est tout un processus. Alors, est-ce que ce processus, c'est une spiritualité? C'est ça la question en vérité. C'est ça. Est-ce que ce processus est une spiritualité?
C'est un pulham.
Comment?
C'est un pulham. Comment on traduit pulham?
Oui, c'est un culte. Alors voilà, est-ce que c'est un culte? Alors voilà. Alors, si vous voulez, là, je dirais, commence la problématique. Est-ce que c'est une spiritualité? Alors, on va continuer un peu les versets. Continuons un peu. En tout cas, c'est la prise en compte qu'il y a des réalités qui ne sont pas que les réalités visibles. Ça, oui. Ça, oui. La suite. Les Shoel Ov. Alors, oui, donc on a vu Rashi. Shuel Ov. Alors, Shuel Ov, regarde Rashi. Zeme Hashfot, c'est Shemo Pitom. C'est une sorte de sorcellerie qu'on appelle Pitom. Peut-être c'est la pitié. Medaber Meshichio. Malé Tamed Bébé Tachri Shelo. Bon, excusez-moi, peut-être quelques personnes sensibles risquent d'être un peu choquées. Il déterre un mort. Ouais. Et il le met sous les aisselles. Et donc, c'est certaines personnes qui ont initié. Ouais, mettre un. Sous les aisselles. Et on pose des questions au mort, et le mort parle.
Ça c'est...
Esprit, es-tu là ? Alors, ça c'est ce que dit Rashi, c'est le Talmud, hein ? Voilà. Alors, donc là, on peut comprendre, c'est très très avilissant. C'est très très avilissant. Et ça, c'est un point aussi très important et qui va développer dans les versets suivants. C'est que l'humanité, depuis l'aube de l'humanité, est tétanisée par qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Et ça, c'est très très important. Dans l'humanité, c'est extrêmement important de savoir qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, vous savez, c'est connu de tout le monde, dans n'importe quel journal qui traîne dans les poubelles du métro, c'est tous les deux jours ils en parlent, que ici en France, on est dans un pays très 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 déprimé, les gens sont très déprimés. Et ils prennent beaucoup de médicaments pour ne pas sombrer dans la déprime, etc. Mais on peut comprendre aisément, parce que si quelqu'un n'a pas de foi, qu'est-ce qui peut le remplir dans la vie? Qu'est-ce qui peut lui donner confiance? Le CAC 40, le Dow Jones? C'est, ça fait son temps. Les valeurs sûres ont sombré. Regardez, Ben Ali, il était là-bas. Pour 1000 ans, il était pour 1000 ans sur son trône. Pour 1000 ans. En 2 semaines, il s'est tiré. On n'est plus sûr de rien. Je veux dire, ça, c'est un truc de ouf. C'est un truc incroyable. Tu l'aurais demandé, moi. J'ai jamais discuté vraiment avec lui. Mais j'imagine, il y a un mois où je ne sais pas quoi. Comment ça va? Il dit Abdoulilah, tout va bien, ça va, à l'aise, à l'aise. Ouais. Et le mec, il s'est tiré, quoi. Quoi faire? Comment on peut avancer dans la vie? Ça vaut le coup, je ne sais pas, de se marier, d'avoir des enfants. Mais avec la banquise qu'ils font. Non, mais c'est vrai, c'est angoissant, non? Je vous ai posé la question. Comment on peut se marier aujourd'hui quand il y a la banquise qu'ils font? Non, mais c'est vrai, sans blague. Mais des enfants dans un monde où la biodiversité est menacée. Non mais
parce que c'est tout bichon demain.
Non mais bon, comme ça je dis ça paraît rigolo, mais ça l'est pas. C'est pas drôle. Donc là c'est macroscopique, mais au niveau de la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va advenir? Est-ce que quelqu'un, par exemple, quelqu'un il va se marier pour un garçon, est-ce que c'est la bonne? Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir le Rabbi Lubavitch.
justement, est-ce qu'on a...
Alors maintenant, Rabbi Lubavitch, il y a un débat pour savoir s'il est mort. Un ami m'a raconté combien il faut de Lubavitch pour changer une ampoule électrique. Aucune, elle n'est pas éteinte. Elle n'est pas éteinte. Alors, bon. Non, mais qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on a besoin de savoir. On a besoin de savoir. On a besoin de savoir. C'est-à-dire, et ça, c'est ça ce que la Torah nous dit. Attention, c'est des mauvais moyens. Ça, c'est mauvais. Parce que tu veux savoir. Alors, comment pour savoir, ça veut dire, nous, on est des gens, je pense la majorité des gens qui sont là, on est des gens normaux. Ce que je veux dire, c'est quoi normaux? Ça veut dire... je ne sais pas, mais c'est des gens qui travaillent ou qui ont une famille. Ça veut dire, on a des responsabilités. À partir d'un âge, on prend des responsabilités. On essaie d'assumer ses responsabilités. On pourrait dire, le nez dans le guidon. On peut pas voir loin. On peut pas voir loin. On est dans le quotidien. Je ne sais pas, moi, avant de venir ici, je suis allé à Intermarché faire des courses avec mon gosse. C'est vrai, c'est même intéressant. Mais, j'ai pris le repas avec mes enfants, machin, ici, après, on sera à la maison. Non, ce que je veux dire, on a un rythme normal, si vous voulez. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce que la Torah veut. C'est ce que la Torah veut. La Torah veut que nous, on ait une vie, une bonne vie, une vie intègre. C'est ce que la Torah veut. Mais alors, comment savoir le futur? Comment le futur, c'est pas seulement le futur pour savoir de manière croustillante des choses inconnues. Non, mais savoir. On fait des calculs complexes, économiques, des projections avec des gros ordinateurs pour savoir les tendances, est-ce qu'il va y avoir une reprise économique dans l'Union européenne ou bien dans tel pays émergent. On va faire des modèles mathématiques, etc. Comment savoir? Est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup? C'est très 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 important. Alors, depuis l'aube de l'humanité, il y a des gens qui ne vivent pas comme les autres. Qui ne vivent pas dans les autres, comme les autres. Qui, au contraire, tout leur quotidien casse leur quotidien pour atteindre des connaissances. C'est ça le chamanisme. Moi, j'ai coutume de dire, et d'ailleurs, il se revendiquait de ça, quelqu'un comme, par exemple... Jimi Hendrix, bon, qui a été à une certaine époque un visionnaire, on pourrait dire, quelqu'un de visionnaire, pour être créatif, même encore aujourd'hui, pour être créatif, des gens, pour créer quelque chose, si tu es trop dans le quotidien, quand tu vas tes courses au champ, tu rentres à la maison, tu fais les devoirs avec les gosses, après tu vas au boulot, après dodo, après machin. Bon, c'est comment dire, pour être créatif, il faut, encore aujourd'hui, en Occident, par exemple, dans des agences de pub, ou dans des cinéastes, pour il faut qu'ils se shootent. C'est pas qu'ils se... Il y a différentes manières de se droguer. Il y a des gens qui se droguent parce qu'ils ont des problèmes qui n'assument pas, qui ne peuvent pas assumer. Il y a des gens qui ne peuvent pas assumer certaines choses. On ne sait pas. Il y a des gens même qui ont besoin de boire terriblement parce que Bon, ça, c'est des choses que ce n'est pas la plupart des gens. Mais il y a quelqu'un m'a raconté que y a quelqu'un dans sa famille qui était quelqu'un dans sa famille quelqu'un de pas juif qui a fait qui était nazi. Son grand-père était nazi. Et cette personne m'a raconté, ce petit-fils m'a raconté. Et il a réussi après la guerre comme certains nazis, à rentrer dans l'administration comme grand administrateur allemand, mais il est devenu alcoolique terriblement. Parce qu'il a vécu des choses qu'il ne peut pas supporter, qu'il évacue. Ça, c'est une certaine manière de se droguer, mais il y a une autre manière. Par exemple, les gens qui sont créatifs, des musiciens, des publicistes, ou des cinéastes, etc., qui, pour être visionnaires, ne peuvent pas vivre comme les autres. Ils ne peuvent pas. C'est un peu du chamanisme. Un genre de chamanisme occidental, si vous voulez. Un genre de chamanisme occidental. C'est pour inventer des sons, pour inventer même... ils doivent avilir leur quotidien. Pour voir. Ça, la Torah interdit. Ça, c'est radicalement interdit. Mais ça ne résout rien en vérité. Parce que les interrogations restent. C'est ce que la Torah va dire dans la suite. Mais c'est très bizarre parce que beaucoup de la culture, des loisirs sont manipulés par des gens qui sortent du quotidien. Il y a le quotidien. Et pour le loisir, tu vas écouter, par exemple, un concert de gens complètement shootés. Ça nous permet de supporter notre quotidien, nous. Des trucs complètement... tu vas voir un spectacle qui va te dire, bon, alors combien coûte le kilo d'oignons à Franprix ? Ouais. Tu vas avoir un spectacle qui te sort complètement du quotidien. Mais ces gens-là qui vont sortir du quotidien, comment ils font ça? Mais c'est des genres de chamans. C'est des genres de shooter. Hein. C'est, mais quand je dis shooter, ils le sont. Hein, à la cocaïne, d'autres substances, là, aidez-moi. Jean-Marc.
Pourquoi moi?
Non, je ne sais pas.
Je ne suis pas héroïne, LSD, tous les psychotropes, quoi. La cocaïne n'étant pas un psychotrope. Enfin, les hallucinogènes, les choses comme ça, les champignons.
C'est développé, hein, chez Enfin, moi, j'ai connu certains milieux dans mon adolescence.
Oui, c'est extrêmement attaché.
Ça veut dire, je ne sais pas, quand j'étais adolescent, je fréquentais des milieux de jazz. Je vivais même dans les milieux de jazz. C'était shooté.
Oui, non, c'est
l'alcool. Disons, l'espérance de vie, tu avais un jazzman qui... jazzman qui même, je sais pas, prenons le pape des jazzman des années 60, John Coltrane, il est mort de cirrhose, je veux dire,
ouais, c'est ça.
Cirrhose, il est pas mort de vieillesse.
Max Davis,
notre papesse à tous, Janis Joplin, espérance de vie 24 ans, je veux dire, enfin, mais ils ont marqué, c'est des gens qui apportent, Kurt Cobain, etc. Overdose. C'est, mais en vérité, c'est si vous voulez, nous on voit ça, c'est pas normal. Si vous voulez, c'est des genres de chamans occidentaux. C'est ça ce que la Torah interdit. La Torah interdit. Mais alors, quel est le pendant? Le pendant, c'est quoi? C'est une vie métro-boulot-dodo. C'est quoi l'enjeu? Alors, on comprend. Si vous voulez, là, on comprend qu'il y a une nécessité dans l'humanité structurelle de dépasser les limites. Alors, la Torah nous dit, verboten, Hartung, interdit, kaput, très très interdit. Interdit. Continuons. Mais Chomer Chaver, Shoel Ov Vidéoni. Alors Shoel Ov. Alors Shoel Ov, c'est celui qui fait sortir le cadavre et le fait pas. Alors Idéoni, il est pas mal le Idéoni aussi. Comment?
C'est la nécromancie aussi.
Oui, ça va arriver, une nécromancie, il arrive dans... Oui, là, il fait parler le cadavre. Alors, Idéoni, il est pas mal. Alors, l'Idéoni, c'est un cas limite. Les commentateurs expliquent que il y a... Ça, c'est... Les commentateurs du Talmud expliquent unanimement la chose suivante. Il y a, dans les forêts très, très profondes, un être qui s'appelle Adne A. Comment? Qui s'appelle Adne Aaretz, le seigneur de la terre. C'est un être qui ressemble à un homme et qui est attaché à la terre par son ombilique. Et quand il sent une présence humaine aux alentours, il rugit pour manger la personne qui l'a senti. Attendez. Et les Cananéens, que faisaient-ils? Ils allaient dans les forêts profondes. Ils lançaient une flèche. Il fallait, c'est très très dangereux, attention. N'y allez pas comme ça. Parce que s'il sent la présence, alors, si quelqu'un, par contre, il arrivait avec une flèche à couper l'ombilique, cet être mourait instantanément. En criant des cris épouvantables, et les sorciers anciens dépeçaient cet être, prenaient précieusement ses os, et des sorciers qui s'appellent les Idéoni mettaient un os de cet être dans la bouche, tu posais des questions, ils te disaient l'avenir. Et toc. Alors, sachez, c'est interdit. Sachez, une bonne fois pour toutes, c'est interdit. Et pas seulement ça. Quelqu'un ferait ça, ça fait partie des interdits gravissimes de la Torah.
Comment ça s'appelle?
Oui.
Par rapport au fait que les prophètes, ils ont vu des choses dans la nuit.
Alors regardez, on arrive, on arrive.
Celui qui y croit.
Alors, une seconde. Alors, continuons. Et la dernière catégorie, The Doresh et la Métime, c'est la nécromancie, c'est-à-dire esprit, es-tu là? Oui. Alors, on fait venir l'esprit de Michael Jackson. Michael. Combien de pourcentage aura Marine Le Pen? Tu as compris ma question, Michael? Alors, donc ça, c'est Doresh El Hametim, donc poser des questions à un mort, ça c'est interdit par la Torah. Donc, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, par contre. Ouais, font venir l'esprit de machin bidule.
Les voyants.
Comment ?
Les voyants, ils utilisent des, ils communiquent avec les morts, je crois.
Voilà. Il y a ça, je sais. Et on m'a dit que en Israël, c'est, ils adorent ça. Vous savez ça, mademoiselle ? En Israël, ils sont complètement addicts à ça. Addicts. À poser des questions aux morts, etc. Complètement addicts. Ça, c'est un interdit de la Torah. Interdit de la Torah. C'est-à-dire, esprit de machin. Ouais, tu m'entends bien ? Et il parle avec. Hein, il parle avec. Alors, ça, c'est strictement interdit. Alors, regardons les versets suivants qui sont très très importants. Ki to'avat Hashem kol olseli. C'est écœurant. C'est l'écœurement de Dieu. Ça écœure Dieu. Tous ceux qui font ça. Kol olseli, tous ceux qui font ça. Alors, vous voyez que c'est important, comme le verset nous a dit plus haut, c'est important de connaître. Parce que, qu'est-ce qui. C'est-à-dire que ce sont des choses, en vérité, la base. C'est avilissant. Parce que ça sort du quotidien. Pour atteindre ça, il faut se porter atteinte à soi. Et le verset suivant nous dit « Tamim tiye im Hashem Elokecha ». Jusqu'à maintenant, c'était des interdits de la Torah. Maintenant, il y a une mitzvah positive. « Tamim tiye ». Im Hachem. Alors, le mot tamim veut dire à la fois entier, tamim, temima, Torah Tachem temima. Tamim, ça veut dire entier, intègre et confiant aussi. Ça veut dire confiant. Confiant. Sois confiant. Mais ça veut dire aussi soit intègre. Tamim, par exemple, on dit que quand on offre un sacrifice à Dieu, il faut prendre un animal qui n'est pas blessé, qui n'a pas par exemple, estropié. Il faut que l'animal soit tamim, entier. Mais ça nous montre bien aussi que ce que Dieu nous demande, c'est la Torah nous demande des choses très, très, très importantes et très difficiles aussi. C'est à la fois de servir Dieu, de servir le Créateur, Boré Olam, le Créateur, et d'être intègre, de ne pas s'abîmer, de ne pas se porter atteinte, de ne pas porter atteinte à sa vie normale. Et d'ailleurs, la vie juive nous encourage, mitzvot nous encourage à une vie normale, à une vie insérée dans un quotidien. Alors, comment faire ? Et c'est le verset d'après dit que Dieu nous envoie des prophètes.
Nous envoie des prophètes ?
Nous envoie des prophètes. Et alors, la suite de la Torah va nous dire comment savons-nous que c'est un vrai prophète, pas un bon prophète ? Alors, ça, la Torah va développer. Mais la base de la Torah, la base de la Torah, c'est la prophétie. Le Navi, le prophète.
Alors, mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que ça résout ? Pourquoi la Torah nous envoie des prophètes ?
Oui, pour qu'on reste intègre, on ne s'abîme pas. C'est des gens, un prophète, c'est un racham, ce sont des sages. C'est pas des gens olé olé, des gens n'importe quoi. Ce sont des sages à qui Dieu parle et nous dit des choses. Alors, aujourd'hui, la prophétie, nous savons que la prophétie s'est arrêtée depuis 2300 ans. Pas de prophète depuis 2300 ans. C'est-à-dire, depuis la construction du second temple, la prophétie s'est arrêtée depuis la construction du second temple. Ce second temple, c'est moins 300, 350 de l'ère commune. Donc ça fait déjà chassra. Ouais, ça fait pas mal de temps. Hein. Bien. Alors, ça fait longtemps. Maintenant, si je prononce mal.
C'était qui notre dernier prophète ?
Le dernier prophète, c'est. Le dernier prophète, c'est Haggai, Zacharia, pas Habakkuk. Une seconde, Mordechai, le dernier prophète. Mordechai et Nechemia, parce qu'on a dit que Mordechai et Nechemia, c'est le même. Alors, donc, mais la base de la prophétie, la base de la Torah, c'est-à-dire, en vérité, quand on étudie le Talmud, quand on étudie la base de notre tradition, la base de notre tradition, quand on étudie, c'est-à-dire l'étude approfondie, c'est retrouver les bases prophétiques et mettre à jour les dimensions prophétiques que nous avons reçues d'abord de Moshe Rabbeinu, de Moïse, de ce qu'il a appris par écrit et oral et qu'il a transmis. La base de la Mishnah, sont des enseignements oraux que Moïse a reçus de Dieu directement, développés ensuite par d'autres prophètes. Mais la base, c'est la prophétie. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous savons, par exemple, des choses très, très, très fondamentales. Moi, j'ai coutume de dire, par exemple, quand il y a des jours de deuil, il y a des livres qui nous enseignent précisément qu'est-ce qu'il y a après la mort. Chez nous, si vous voulez, c'est pas « Oui, tu crois la vie après la mort, ouais. » Non, c'est pas ça. C'est « Nous, on sait. » C'est pas une question... C'est une question de connaissance. Nous savons précisément qu'est-ce que c'est Olam Haba, qu'est-ce que c'est le monde futur, qu'est-ce que c'est la résurrection des morts. Il y a des livres entiers là-dessus. On sait, mais c'est fondamental. C'est une connaissance. Maintenant, comme qui dirait, personne n'est allé là-bas et revenu. Ben, si, quand même, vous allez demander à ceux qui font parler des morts. je dis souvent à mes enfants que dans le Talmud, on parle des fantômes. On parle, il y a des passages dans le Talmud que Rabbi, après sa mort, est revenu chez lui faire kiddush. Il y a des choses.
Ça, c'est il y en a qui parlent dans le cimetière avec les tombes et qui.
Oui, ça c'est dans le traité Brachot.
Oui, il parle aussi avec les morts.
Non, il a entendu.
Il a entendu les morts.
Oui, il a entendu. Mais si vous voulez, ça c'est des choses fondamentales. C'est-à-dire que nous, la base, il y a deux éléments dans la Torah. D'abord, de ne pas se porter atteinte à soi et d'avoir confiance. Mais deuxième élément, cette confiance, elle ne patine pas dans le vide. C'est la suite des versets qui nous disent que Akadosh Baruch Hu envoie des prophètes. C'est le verset suivant. Regardez le verset 14 et 15.
C'est quoi le deuxième ? Et avoir confiance.
Verset Yudalet et Tet Vav. Gagoyim aele asherata yoreshotam. Car ces peuples dont tu vas prendre la possession, El Meonenim Vel Kosmi Mishmaou, c'est à ces sorciers, à ces divinateurs, ils écoutent. Vata Loken Atanicha Hashem Elokecha. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Navi Mikirbecha Marecha Kamoni Yakim Lecha Hashem Elokecha Elav Tishmaou. Un prophète de ton sein, de tes frères, comme moi, l'Éternel ton Dieu, fera se lever parmi toi, à lui tu écouteras. Donc c'est Moïse qui parle. Donc là, Moïse il dit, bon moi, j'ai fait mon temps, je t'accompagne pas, toi, peuple juif, dans la terre de Canaan. Oui, mais un prophète comme moi, Dieu fera se lever et tu l'écouteras. Donc un avis est la différence fondamentale. La différence fondamentale, c'est que un avis sera un prophète. Comment savons-nous qu'un prophète, c'est un vrai prophète ? Comment c'est ? Alors, c'est développé dans le texte. Hein. Je vous dis en résumé. Comment c'est ? Quelqu'un et vient. Alors, il y a des conditions. Il faut que ça soit d'abord quelqu'un de pieux, qui accomplit les commandements de la Torah, ça soit un chacham, si c'est un ignorant, c'est pas possible. Il faut que ça soit d'abord un chacham, très pieux, si ça ne rentre pas dans ces conditions, on dégage. Bien. Maintenant, il faut que ce qu'ils disent ne s'oppose pas au commandement de la Torah. Si ça s'oppose au commandement de la Torah, dégage. Il est condamnable à mort. C'est pas il dégage, condamnable à mort. S'il dit Dieu m'a parlé et qu'il dit quelque chose qui va contre les enseignements de la Torah, c'est le signe que c'est un faux prophète, condamnable à mort. Faux prophète, à l'époque où il y a du pénal dans le peuple juif, condamnable à mort. Comment savons-nous que c'est un vrai prophète? Ce étant, comment savons-nous que c'est un vrai prophète? S'il dit il va se passer telle chose et que ça ne s'applique pas dans les détails, c'est le signe que c'est un faux prophète.
Ça veut dire ça.
C'est, s'il dit il va se passer telle chose et que ça ne s'applique pas dans les détails, par exemple, lorsque le prophète Shmuel, Samuel, a dit à Shaoul, que Shaoul, je viens, Dieu m'a désigné pour te nommer roi. Alors, Shaoul dit, oui, peut-être que peut-être, oui, comment saurais-je? Alors il dit, voilà, demain matin, tu vas retourner chez ton père. Et tu vas rencontrer trois personnes. Un, il tient une bouteille de vin, l'autre, il tient un miche de pain, l'autre, il tient telle chose. Ensuite, tu vas plus loin, tu rencontreras telle personne habillée comme ci et comme ça. Voilà. Et si c'est l'application de ça, c'est que c'est un vrai prophète. Il y a un détail qui n'est pas comme ça, c'est signe que c'est un faux prophète. Alors ça, c'est très très important. Et ça, j'essaie peut-être, si vous voulez, de synthétiser dans un premier temps ce que nous voyons ce soir. Je vous ai dit que j'étais confronté à une histoire un peu impressionnante que je vais vous raconter. Là maintenant, ça va nous aider à comprendre. Pour des circonstances multiples et diverses, il y a un monsieur non-juif qui est ami. On est devenu ami pour des circonstances multiples et diverses, très ami. Ce monsieur a une épreuve, sa femme est tombée malade gravement, ce monsieur non-juif. Et sa femme très gravement malade. Bon. Okay. Il y a quelques mois, je suis allé les voir pour voir comment on va les voir. Okay. Et c'était hors de Paris, il m'a ramené à Paris en voiture. Il m'a dit, voilà, tu sais, dès que j'ai appris que ma femme était très très malade, j'étais perdu, paumé. Et je l'ai paumé. Et j'ai demandé, est-ce que j'ai entendu parler qu'il y avait un voyant, dans le 19e. Et il est allé là-bas voir le voyant. Alors moi, j'ai posé des questions. Comme on est amis, il m'a raconté tous les détails. Comme Rachid nous a dit, tu dois apprendre pour comprendre, précisément. Et je vous passe des détails qui ne vous regardent pas, qui ne me regardent pas non plus, mais quelque chose de très intéressant. Il est allé avec sa femme qui est dans la chaise roulante. Donc ils sont dans la salle d'attente. Ils vont rentrer dans le cabinet du voyant. Voyant non juif. Il rentre. Avant, tout de suite, le voyant dit. Comme dans les bandes dessinées, vous savez. Je vois Georges. Georges est là.
C'est le mari Georges?
Non.
Ah non.
C'est un oncle de la dame. Ah. Georges est là. Je le vois. Et c'est comme dans Tintin, vous savez. Je vois Georges. Il est là. Qui est Georges? Alors, ça c'est très intéressant. Qui est Georges? Alors, ce monsieur m'a dit, il voit, mais ce n'est pas une connaissance. C'est un
une communion avec des forces. Si vous voulez, c'est instinctif. Il voit, mais c'est comme, excusez-moi l'expression, comme un animal qui a, par exemple, nous on voit, on est des êtres humains, on a, je ne sais pas, moi je suis un peu myope, mais bon, il y en a qui voient bien. Mais un humain, même s'il voit bien, il voit jusqu'à une certaine distance. Maintenant, tu as des animaux, l'aigle, il voit, ça n'a rien à voir. La vision de l'aigle, c'est, d'ailleurs c'est pour ça les Indiens, œil de lynx, machin, c'est une vision qui n'a rien à voir. Là aussi, nous on perçoit certaines choses. Le Talmud dit, et d'ailleurs je crois que c'est évident, que les chiens perçoivent instinctivement des choses que...
L'orage par exemple.
L'orage, ou même, ils hurlent à la mort, on dit, le chien il hurle à la mort. Mais le Talmud authentifie qu'ils hurlent à la mort, ils ont vu la mort, ils ont vu l'esprit de la mort. Il y a des êtres qui perçoivent de la même manière ces éléments, ce dont on parle ici. C'est une communion avec des forces telluriques, avec des forces qu'on ne voit pas comme ça, mais qui sont dans le monde.
Quand on dit Moïse a vu Dieu, c'est ça ?
Ah non, alors ça, non. Alors ça justement, c'est de l'ordre de la... Excusez-moi, là, c'est pas de l'ordre instinctif, c'est de l'ordre de la connaissance. Ça, c'est l'ordre de la connaissance. C'est le prophète, justement, le prophète, on voit dans les prophètes, ils voient une image, Dieu leur donne une vision, mais ils ont en même temps l'explication de la vision. C'est pas une vision comme ça, c'est une vision avec une connaissance. Et la dimension de la sorcellerie, j'ai dit tout à l'heure, il y avait une différence structurelle entre l'idolâtrie, l'interdit d'idolâtrie et l'interdit de sorcellerie. L'idolâtrie est déjà dans l'ordre d'une connaissance. Erronée, mais c'est de l'ordre d'une connaissance. L'idolâtrie, c'est de l'ordre d'un... Comment dire ? On pourrait appeler d'une spiritualité, d'une élaboration. Erronée, notre étude ce soir n'est pas qu'est-ce que c'est l'idolâtrie. Mais l'idolâtrie, c'est déjà une conception du monde. Là, nous ne sommes pas dans la sorcellerie, dans la conception. Si vous voulez, l'idolâtrie, c'est une conception du monde. Erronée, mais c'est une conception. Il y a une dimension d'intellect. Dans la sorcellerie, ce n'est pas une dimension d'intellect, c'est une dimension sensitive. Et c'est très, très, très intéressant. C'est très intéressant qu'aujourd'hui, il y a, un engouement certain pour ces dimensions. Alors c'est vrai, quand on dit sorcellerie, ah non, la sorcellerie, non. Par contre, le chamanisme, oui, ça fait mieux. Mais bon, mais je ne cherche pas à dire l'anathème, je cherche à percevoir ces dimensions qui existent. Ça existe. Maintenant, vous avez dit qu'en Afrique du Nord, il y avait des dans nos familles, qui se trouvaient exactement pareil, en tout cas en Pologne. Mes grands-parents que j'ai connus, c'était exactement la même chose. Les Pologne, exactement la même chose. Alors, il y a un énorme débat que nous verrons peut-être la semaine prochaine, parce que il y a des choses dans Maïmonide qui sont fondamentales qu'on n'a pas vu ce soir, que sur la prestigitation. Maïmonide interdit de manière absolue la prestigitation, les autres décisionnaires n'interdisent pas. Quel est le débat ? On verra ça. De manière pratique, on verra. Enfin, en pratique, on fera des numéros. Mais il y a un grand débat entre Maïmonide et les autres décisionnaires. Maïmonide dit que tout ça, c'est des bêtises. Maïmonide dit que tout ça, c'est des bêtises. Mais alors, c'est incroyable, parce que le monsieur, là, par exemple, qui m'a raconté ses séances chez le voyant, il m'a dit des choses qui sont authentifiées. Et des choses indubitables qu'il a vues. Alors, comment Manoni peut dire que c'est des bêtises ? Alors,
c'est troublant. Hein.
Comment ?
C'est troublant.
Comment ?
Je dis bien sûr que c'est troublant.
Ouais. Alors peut-être en analysant. Je pense que là, il faut analyser. Il faut des éléments pour analyser. Donc, on essaiera de voir quel est le débat entre Maïmonide et tous les autres décisionnaires, tous les autres commentateurs, dont Narmanide, dont le Gaon de Vilna, disent que Maïmonide s'est trompé. Mais Maïmonide, c'est quand même un de nos maîtres principaux. Comment peut-il dire que tout ça, c'est des bêtises ? On verra dans une deuxième étude.
Ah, d'accord. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'interruption de ce que vous avez
de
ne plus la bénir et d'aller voir
oui.
La pendule, etc. Et quand on va voir un rat, c'est différent.